Tous, à vous qui venez d'habitude ici, bienvenue parmi nous, et puis à ceux qui vous joignez ce matin de façon exceptionnelle, que le Seigneur vous bénisse tous, nous bénisse tous. Merci beaucoup, Eri, pour cette introduction paisible à ce temps de culte. Ce matin, il va être question du psaume 23, une nouvelle fois. Et je vous propose de lire ce psaume. Plus exactement, de dire tous ensemble ce psaume que vraisemblablement la plupart d'entre vous connaissez, soit par cœur ou par bribes. Le Seigneur, l'Éternel, est mon berger. Ah, lisons à une autre version, hein. On recommence. Le Seigneur, l'Éternel, est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des sources d'eau paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans le val de l'ombre de la mort, je ne crains pas le mal. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours et je veux habiter dans la maison de mon Père pendant la durée de mes jours. Eh bien, on le sait de mieux en mieux, ce psaume. Ce matin, nous nous arrêtons sur « Il me conduit dans les sentiers de la justice » à cause de son nom. Dans son commentaire du psaume 23, Philippe Keller dit que nos comportements à nous les humains, nos habitudes de vie sont tellement semblables aux brebis que c'en est presque gênant. Et pourtant, dans la Bible, Dieu dit à son peuple, en Ézéchiel, au chapitre 34, il va être beaucoup question de ce chapitre-là d'Ézéchiel. Il dit ceci, « Vous, mon troupeau, le troupeau que je dois paître, vous êtes des êtres humains. Et moi, je suis votre Dieu. » Ainsi parle le Seigneur. Donc, même si nous ressemblons beaucoup aux brebis, nous ne sommes pas des bêlants. Même si de temps en temps, nos intonations, nos récriminations nous font bien penser à ces êtres et à ces animaux. Voilà une chose de dite. Revenons à David. David savait que les brebis de son troupeau avaient besoin d'être correctement dirigées. Vous savez que David était un berger avant d'être un roi. En effet, le mouton, dans sa généralité, peut paître un peu partout. Il ne sait pas gérer son espace vital. Ainsi, lorsqu'un mauvais berger laisse le troupeau se débrouiller tout seul, eh bien, ces bêtes entrent en compétition. Et tant pis pour les plus faibles. Le troupeau entier va vers sa ruine. Et David nous dit, « Le Seigneur, l'Éternel, mon berger, me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu vient remettre bon ordre dans son peuple. » Alors, c'est un appel à écouter, et non seulement à écouter, c'est une écoute dans le but d'y répondre. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler du prophète Ézéchiel, et du chapitre 34 notamment, on va le survoler très rapidement. Ézéchiel est un prophète qui dit ce que Dieu dit. Dans ce chapitre 34, les 15 premiers versets, Ézéchiel se montre extrêmement sévère avec ceux qui dirigent le peuple. Ce sont des paroles au vitriol. Et là, les prêtres et les pasteurs, on en prend pour notre grade. Les membres de conseils presbytéraux, les personnes qui sont chargées des introductions des présidences de culte et puis les secrétaires, les moniteurs d'école du dimanche, les accompagnateurs de clubs ados, de clubs d'enfants, les pères et les mères de famille, nous en prenons tous plein la tête. Ces versets nous disent que ceux qui ont ainsi position d'autorité gardent pour eux tout le bon et laissent le peuple se débrouiller. Une image vitriolée. Et puis, au verset 17 à 23, le prophète passe cette fois-ci à tous ceux qui sont dirigés, donc aux membres du peuple. Donc ça peut être chacun d'entre nous, si nous sommes dirigés. Et là, Ézéchiel se montre tout autant sévère avec le troupeau, parce que c'est chacun pour soi. Il dit aussi que le Seigneur veille, même sur des gens qui ne tiennent pas la route. Alors dans le peuple, on se pousse de l'épaule, on frappe, on agresse. Et le troupeau dans l'entier, dans son entièreté, selon Ézéchiel, est divisé par l'égoïsme de chaque personne. Une vision bien noire, n'est-ce pas? Des dirigeants qui ne tiennent pas la route, un peuple qui ne la tient pas davantage. Philippe Keller, dans son commentaire du psaume 23, décrit de façon précise ce qui se passe dans un troupeau de brebis ou de moutons laissés à l'abandon. Ces brebis suivent toujours le même chemin, broutent les mêmes endroits jusqu'à les épuiser totalement. Et puis, les pluies viennent, transforment ces sentiers, les creusent en ravines, si bien qu'il ne faut pas très longtemps pour que le terrain soit totalement dévasté. Et encore, si c'était les seuls dégâts. Les brebis polluent le terrain par leurs déjections qui s'accumulent, attirent les insectes, tout un tas de maladies. Les points d'eau subissent le même sort. Le troupeau dans son entièreté devient nerveux, irrité, il n'y a plus d'herbe. Le terrain ne correspond plus. Les bêtes les plus robustes arrachent leur pitance aux plus faibles. Une catastrophe, ce troupeau. Alors Ézéchiel, dans la suite de son chapitre, montre que Dieu prend les choses en main. Il va paître son troupeau avec équité. Pas avec égalité, avec équité. Chacun selon ce qu'il lui faut. Et son projet, c'est ça qui est extraordinaire, le projet de Dieu, il ne va pas agir comme un bon berger qui sait tout, il n'y a plus qu'à obéir. Son projet prévoit la collaboration de chaque brebis, la collaboration de chaque personne. Et voilà comment il s'y prend. En bon berger, eh bien, il connaît les pâturages. Le degré de maturation des herbes qui varie de lieu en lieu. Ça nous donne des échos en Genèse, au chapitre 3, verset 8. Nous apprenons qu'en Éden, Dieu parcourait le jardin à la brise du soir. On lit ça dans la Bible. Et Dieu ne change pas. S'il le faisait en Éden, il continue à le faire aujourd'hui encore. Il soutient la création et rend possible que chacun de nous puisse accomplir sa volonté. Le bon berger connaît les endroits d'une bonne alimentation. Le bon berger, deuxième élément, toujours Dieu, tient son troupeau en éveil, en le faisant passer d'une prairie à une autre. Ainsi, les brebis n'ont pas le temps de polluer le sol ou de l'épuiser, encore moins de le contaminer. Au contraire, leurs déjections vont contribuer à ensemencer, à mettre de l'engrais sur ces prairies. Aussi, quand elles sont parvenues dans une autre prairie d'herbes fraîches, alors elles sont surexcitées. Et là, elles doivent être calmées, rappelées à l'ordre pour que l'équité règne. Dieu, en bon berger, prend garde à ce que les plus faibles disposent d'une large portion. Et encore, un troisième élément, le projet de Dieu, berger de ce troupeau, c'est un projet qui est prévu longtemps à l'avance. Il prévoit une rotation de pâturage tout autour de la bergerie. Alors, en début de saison, les prairies sont très proches de la bergerie. Et puis, au fur et à mesure, le cercle de rotation s'agrandit. Au fur et à mesure, les brebis deviennent plus robustes et sont capables de marcher plus loin. Et là, on voit que cette méthode exige à la fois un berger qui sait ce qu'il fait et des brebis qui collaborent. Parce qu'il a beau dire « on va changer de pâturage », si les brebis ne marchent pas, ça ne va pas y aller. Hein. Un projet de Dieu qui appelle une collaboration. C'est là que nous rejoignons vraisemblablement peut-être l'intention de David, « Le Seigneur, notre Dieu, nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » En vrai bon berger, il rassemble le troupeau, il en prend soin. Et là, on a besoin d'écouter Ésaïe. Ésaïe, parce que ça va nous rappeler quelque chose de connu. Ésaïe dit ceci, chapitre 53, verset 6, « Nous étions tous errants, comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir son serviteur. Il a chargé de notre faute à chacun. » Vous voyez de qui on parle ? On parle de Jésus-Christ. Cette parole de Dieu aujourd'hui est accomplie pour quiconque croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce serviteur, le bon berger, s'est ému, Marc 6, de voir devant lui une foule sans berger. Et nous avons vu ce que les brebis sans berger deviennent. Jésus a offert sa vie sur la croix et ainsi a pardonné le péché de quiconque croit en lui. Il nous reste ici la croix. Jésus est ressuscité. Dans les églises catholiques, Jésus est encore dessus. Mais ils ont pris la photo juste avant, quand il était crucifié. Nous, on a pris la photo juste après, quand il était ressuscité. C'est la même croix. Les photos ne sont pas au même moment. Ressuscité, le Seigneur est désormais à la gloire de Dieu le Père. Et Jésus, le bon berger, veut que ses disciples collabore pleinement au projet de Dieu. Il rassemble son peuple, il en nomme 12 et les avertit. Si quelqu'un veut prendre le statut de disciple, si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors voilà, Dieu le bon berger prend son peuple en main, Dieu le bon berger envoie Jésus-Christ. Il vient lui-même sur terre dans la personne de Jésus-Christ, sauver quiconque croit en lui. Et nous, dans l'histoire, il nous appelle à collaborer. Et nous, dans l'histoire, eh bien, aujourd'hui, il y a deux types de personnes. Vous connaissez le bon, la brute et le truand, où on a ces réparties. Dans la vie, il y a ceux qui regardent et ceux qui creusent. Vous connaissez ce dialogue, vous ne connaissez peut-être pas, mais regardez le film, ça vaut le déplacement. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui, sur le quai de la vie, regardent passer le train de la grâce, en se disant, c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait pour son peuple, le train s'en va, mais je reste sur le quai. Et puis la prochaine rame, elle passe, et je reste sur le quai. Et puis, il y en a une deuxième partie qui voit arriver le train de la grâce et qui entre dans la rame, et qui s'en vont sur le chemin de la grâce, et jour après jour. Et ça, c'est la collaboration au projet du Seigneur que Dieu attend de nous. D'accepter d'être conduit dans le train de la grâce, sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Alors, je termine avec ça. C'est assez court aujourd'hui. Trois applications toutes pratiques et concrètes. Marcher dans les sentiers de la justice dans ce cadre, c'est tout d'abord accepter une sacrée dose d'incertitude. C'est deuxièmement considérer l'autre avant soi-même. Et enfin, troisièmement, de choisir de rester ambassadeur de Jésus-Christ quoi qu'il en coûte. Trois applications toutes concrètes. Marcher dans les sentiers de la justice, c'est accepter l'incertitude, oui, de changer de pâturage comme Dieu conduit. Oh, en français, on dit bien « un vaut mieux que deux, tu l'auras », n'est-ce pas ? Vaut mieux garder ce qu'on a que de croire qu'on va recevoir deux fois plus. Qui d'entre nous accepte d'être conduit et quand ça provoque des renoncements à nos acquis, à nos attitudes, peut-être à nos biens, notre orgueil, notre volonté d'agir selon nos idées ou selon nos habitudes font que nous n'aimons pas beaucoup ou même pas du tout être conduits ailleurs, en dehors de nos cercles de tranquillité, en dehors de nos prairies habituelles. Et pourtant, marcher dans les sentiers de la justice, eh bien, c'est accepter de changer de pâturage, une marche au rythme de Dieu. Et ce n'est pas facile, tu le disais tout à l'heure, Eri, de rester confiant en Dieu, de lui donner la maîtrise de ce qui se passe, d'apprendre à vivre autrement. Laisser le Seigneur assurer la direction de notre vie, ça donne le repos à l'âme. Ça nous donne de l'énergie pour nous tourner vers les autres. Alors, je vous parle aujourd'hui, vous savez tous que je suis un Alsacien. Et puis Linette et moi, quand ça fait 3 ans qu'on est là et on se dit que le choc culturel avec la Beauce est vraiment beaucoup plus important que ce que nous imaginions. Parce qu'on ne vit pas tout à fait pareil dans le pays d'où nous venons, enfin dans la région d'où nous venons. Eh bien, quelque part, nous remercions le Seigneur qu'il nous ait conduits ici, pour qu'à notre âge, il y en a qui sont plus âgés que nous, mais peu importe, qu'à notre âge, nous changions de pâturage et nous découvrions une autre culture et que nous nous fassions petit à petit à cette nouvelle culture en laissant le Seigneur changer notre réalité, nous donner par son esprit la capacité de nous tourner vers l'autre, vers les autres, de rencontrer d'autres gens, au-delà de la famille, au-delà du village, au-delà de nos cercles habituels. Marcher dans les sentiers de la justice, c'est accepter une sacrée dose d'incertitude. Deuxième élément, eh bien, ça nous conduit justement au deuxième élément, c'est accepter de considérer l'autre avant soi-même. Dieu considère comme juste à ses yeux quiconque croit en Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité. Quiconque, ça veut dire que ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement ma pomme, mais c'est aussi Huguette, et puis c'est aussi monsieur que je ne connais pas là-bas, mais que je ne connais pas votre nom, mais ça ne fait rien. Vous aussi, vous êtes sauvés en Jésus-Christ. Et puis Annelise, et puis encore d'autres. Pas seulement moi, mais tous les autres qui sont sauvés en Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit fait pousser un fruit. L'autre à côté de soi, on va y faire attention, comme pour en prendre soin. D'abord, elle ou lui, et puis soi-même ensuite. Ça change, ça, hein ? Considérer l'autre avant soi-même, eh bien, c'est l'aimer. Savoir qu'il ou elle est là, ça va jusqu'à s'oublier pour l'autre, comme Dieu qui a tant aimé le monde, afin que quiconque, etc., vous connaissez le verset. Considérer l'autre avant soi-même, eh bien, peu à peu, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous libérer de notre égocentrisme qui fait que l'autre peut me taper sur le système, peut m'énerver, peut me casser royalement les pieds. Eh bien, si celui, monsieur ou madame Casse-Pied, je le considère d'abord comme une personne sauvée en Christ, peut-être ça peut faire bouger les lignes. Une femme de la Bible, Ruth, dit à Naomi, « Où tu vas, je vais. Ton Dieu, mon Dieu. » Pour Ruth, Naomi passe en premier. Quel exemple ! Donc, marcher dans les sentiers de la justice, une fameuse dose d'incertitude. Deuxième élément, ça nous amène à considérer l'autre avant soi. Et puis, troisième et dernier élément, c'est choisir de rester ambassadeur du Christ, quoi qu'il en coûte. Ça, c'est le projet de Dieu. Il veut nous faire cheminer en acceptant de l'incertitude, en faisant passer l'autre avant nous, et en nous utilisant les uns et les autres comme ambassadeurs du Christ, et même si ça nous coûte cher. Si nous acceptons d'être conduits par le Seigneur et de marcher dans les sentiers de la justice, c'est par sa force et par sa grâce. Vous vous souvenez de l'histoire de la rame de la grâce et du train qui va et qui nous emmène. C'est lui qui conduit, c'est lui qui roule. Nous sommes dans le train. Et il nous rend capables, dans ce train, de vivre selon sa volonté. Alors honorer Dieu de façon très pratique, eh bien c'est d'être ambassadeur. Qu'est-ce que fait un ambassadeur ? Un ambassadeur apprend la langue du pays dans lequel il est ambassadeur. Il apprend les codes, il apprend la façon de se comporter, il apprend la société dans laquelle il s'immerge. Et l'ambassadeur, il représente son pays et partage sa culture dans la nouvelle culture dans laquelle il arrive. Être ambassadeur du Christ, c'est donc partager ce que le Christ produit en nous, autour de nous. Ça a rarement été facile. Ça n'a jamais été facile dans l'histoire biblique. On lit dans Apocalypse 13 au verset 17 que sous les empereurs romains, seuls ceux qui avaient la marque des Romains pouvaient faire du commerce. Au XXe siècle, combien ont été persécutés pour avoir refusé l'allégeance au système nazi ? À quoi va-t-on remarquer aujourd'hui ceux qui sont ambassadeurs du Christ ? Ce sont des questions, des réponses possibles. Peut-être sont-ils heureux quand il n'y a pas vraiment raison d'être heureux. Peut-être sont-ils reconnaissants, reconnaissants en tout. Peut-être sont-ils attentionnés, et on pourrait continuer la liste. Voilà, j'en termine. Marcher sur les sentiers de la justice à cause de son nom, eh bien, c'est être rassemblé par Dieu comme son troupeau, dans un plan et selon un plan qu'il a longtemps prévu en avance, pour nous faire marcher et collaborer à ce projet en changeant de pâture régulièrement, et ça suppose une sacrée dose d'incertitude pour nous, en apprenant une autre façon de vivre, ça signifie laisser passer l'autre avant soi-même, et puis ça représente une certaine dose de force, une certaine dose de courage, c'est d'être des représentants de Jésus-Christ sur la terre. Et pas seulement, ce rôle n'est pas seulement réservé aux prêtres ou aux pasteurs, il est réservé à chaque brebis du troupeau, à chacun d'entre nous, d'être des ambassadeurs du Christ, et quoi qu'il en coûte. Amen.